commencer une première série de questions, le temps de mettre en place le nouveau diaporama. Mais vous pourrez reposer encore de plus complètes questions, parce que moi je vais illustrer ce que vient de dire Julie avec des cas très, très pratiques de ma pratique d'architecte pour vous. Donc ça va illustrer avec des photos toutes bêtes. Il n'y aura aucun schéma, c'est pas vraiment de la photo. Et comme ça, ben, vous pourrez d'autant plus poser de questions. Mais déjà, vous pouvez commencer à en poser.
Moi, je voulais juste savoir quelle est la marque de ce fameux parpluie respirant.
Il s'appelle un Tello. Pourquoi, mais il s'appelle un Tello. Vous le trouvez partout, hein. Vous l'aurez cet après-midi. Là, ça
mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pourrez toucher concrètement tous les matériaux que vous verrez en photo cet après-midi. Enfin, vous les verrez tous.
Oui, sur le côté.
Donc la voiture a été refaite et sans nous demander, sans nous expliquer, on nous a mis un film. Mais c'est récent, ça, à peu près un an. Donc est-ce qu'on est obligé de remettre autre chose pour faire respirer ou ça ira?
Ah, ça ira parce que les films d'aujourd'hui sont microporeux. Donc dit respirons.
Il faut souffler.
Mais il est
souffle.
Voilà. Oui. Mais bon.
D'accord.
Ça va encore. Oui, non, il ne faut pas être. Ne refaites pas tous les travaux. C'est pas catastrophique, mais. C'est plus pour un confort, on va dire aussi, qu'il soit rigide pour les artisans eux-mêmes. Les couvreurs disent que c'est plus rassurant. Ils ont moins l'impression qu'ils vont passer le pied à travers et endommager le film quand ils posent la couverture. Là, on parlait d'isolant qui était perspirant. Il vaut mieux les coller contre la mer.
Pour les coller, il faut bien mettre des tasseaux. Donc, il va y avoir un vide.
Mais les tasseaux, ils peuvent être. Alors, si le mur est comme ça, effectivement, le tasseau ne peut pas être tout contre. Il va y avoir des vides entre nous. Donc, des fois, on fait un enduit qui va tout bien lisser et puis on va mettre ses tasseaux.
Il cherche.
À la chaux,
ça a marché tout à l'heure.
Donc 100%. Pas des histoires de bâtards en mettant du ciment et vas-y.
Donc ce produit, il se colle directement sur la pierre.
Alors, voilà.
Si c'est possible.
Oui, si c'est possible, c'est mieux.
Ouais.
Et c'est plat. Ce sont des laines de bois qui sont, on dit rigides, mais quand même assez souples. Parce que très épaisse et donc vous en verrez cet après-midi, vous comprendrez mieux comme ça. Et donc ça, quand même, ça.
Mais elle se colle avec une colle qui est.
Alors il y a plusieurs types de poses. Là aussi, on le développe.
On verra certainement.
Voilà. Bon. Des fois, il y en a qui le posent avec des comme du mat, là, enfin, des plots. Mais ça dépend.
Je voulais juste noter une contradiction quand même. Dans l'utilisation des combles par rapport au bois ancien. On sait qu'un bois se conserve sans souci en dessous de 20% d'humidité. Sitôt, on va l'enfermer dans un isolant, et quand on commence à parler du 30 cm d'isolant, que souvent on va aller enfermer les pannes dedans. Il y a un risque, si on ne maîtrise pas correctement l'humidité,
ça, c'est sûr.
Le problème du coup, on va créer.
Oui, oui.
Si l'humidité va rester dans l'isolant autour d'une panne, c'est des choses qui sont connues à des étages en dessous et des taux d'humidité plus forts, on a les risques perdus. Donc, d'aller habiter les combles et de mettre dans une atmosphère humide des bois de charpente, il y a toujours un risque assez important. Il faut savoir que là, il faut bien maîtriser l'humidité qui va passer. D'ailleurs, à tel point, c'est, je ne sais pas, Tony ne l'a pas forcément précisé, mais lorsqu'on utilisait de la laine de verre, on disait qu'on utilise des pares vapeur. Tout simplement, c'est qu'on sait que la laine de verre est quasiment incompatible avec l'humidité. Elle perd toute sa valeur isolante à partir de ce moment-là. Et on faisait tout pour empêcher l'humidité de passer au travers des isolants. Sitôt, on va être avec des isolants respirants. On va pratiquer d'une autre façon. On va permettre à l'humidité de passer au travers. Il faut savoir que si on enferme des bois à l'intérieur de 30 cm d'isolant, on prend des risques pour le futur. On l'a déjà vérifié, d'ailleurs, dans les couvertures, quand ça se fait dans les années 70, et qu'on mettait les isolants entre les chevrons. Les couvertures ont été pourries en 15 ans de temps. Donc ça, il faut bien être conscient que d'utiliser des combles qu'on n'a jamais utilisés jusqu'alors, parce qu'en fait les bois de carpence au moins sont froids et constamment ventilés, sitôt on va les mettre dans un isolant relativement épais, on prend un risque important si on ne maîtrise pas correctement l'humidité.
Mais Jean-Paul, les isolants des années 70, c'était justement pas du tout des isolants écologiques et respirants comme ceux maintenant. C'était des isolants, par exemple des mousses de polyuréthane ou des polystyrènes,
oui.
qui étaient totalement étanches à l'humidité. Donc c'est normal qu'on retrouve ça.
Oui.
Les isolants dont on parle aujourd'hui et qu'on utilise, qui s'appellent dans son métier, ne vont pas produire les mêmes effets.
Enfin, on verra. On verra dans 15 ans. Mais les Nordiques, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans qu'ils les utilisent, ces laines de bois. Et bon, petite anecdote, le Limousin, la région Limousin paye aux professionnels au mois de juin un voyage de 4 jours en Suède pour aller voir leurs exemples, justement, à 50%. Et donc, ils envoient là-bas des élus, des professionnels du bâtiment. Et on va aller voir justement ce que ça donne au bout de 20 ans, 30 ans. On va aller voir des écoquartiers, des immeubles de 8 étages sur bois, et la mise en œuvre de tous ces isolants.
Alors, excuse-moi Isabelle, je suis manquée à tous mes devoirs, je ne peux pas présenter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour tout le monde c'est Isabelle, mais elle a un autre nom, c'est Isabelle Nadalon-Bousquet. Elle est architecte et elle a commencé, avant d'être architecte, d'étudier bien la question pour sa propre maison. Donc elle commence à bien savoir de quoi elle parle. Et elle a même intéressé beaucoup ses professeurs quand elle a passé sa thèse. Donc je crois qu'elle est vraiment... Elle a beaucoup, beaucoup fouillé ce sujet. Donc, elle est archi, elle est à son compte. Et elle est l'épouse du délégué de la Corrèze, qui est Patrick Bousquet de Rouvet.
J'ai une question sur les panneaux qu'on pose directement par-dessus la toiture.
Oui, isoler sa toiture par l'extérieur, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on va remonter d'autant plus les éléments de couverture. Et des fois, ça peut faire une surépaisseur qui peut chiffonner au niveau, surtout s'il faut rajouter 30 cm, au niveau esthétique. De même que Tony n'aimait pas l'isolation par l'extérieur pour les maisons anciennes parce que ça cacherait la pierre, c'est une raison esthétique là aussi.
L'architecture,
voilà, parce qu'en plus, ça demande, quand on isole par l'extérieur, eh bien, il faut du coup rallonger les avant-toits de toiture, puisque. Voilà, enfin bon, ça modifie, voilà, ça décale tout. Donc forcément, c'est plus pour des questions d'esthétique après. Mais sinon, c'est très bien, oui.
Mais alors, est-ce que ça existe
Ah oui, ça existe, bien sûr.
Mais
en laine de bois.
Alternative, voilà, parce que là, ils proposent tout.
Polystyrène.
Voilà,
styrodur, polystyrène, voilà. Polyuréthane. Alors, sachez qu'on a l'équivalent et avec un meilleur pouvoir isolant, en plus au niveau confort d'été, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est souvent le confort d'été dans les combles. On parle beaucoup du confort d'hiver, mais voilà. Et pour une même épaisseur, on a le même confort avec la laine de bois, avec toutes les qualités qui ont été décrites par Tony. On utilise aussi la laine de bois dans ce cas-là, justement, et avec des... On a des espèces de... comme des pattes qui vont aller chercher le chevron en dessous pour justement coincer l'isolant dans le chevron.
Et donc c'est 30 cm là aussi
Mais alors on n'y est pas encore, enfin c'est ça, c'est si on veut effectivement aller vers ces... ce qu'a dit Tony, oui, ses objectifs. Mais c'est vrai que dans ma pratique actuellement, nous, on ne dépasse pas les 24 cm, parce que le client, en général, il n'a pas... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore... Ça mûrit lentement, hein, tout ça. Déjà, nous, quand on pensait faire 24 cm, on était très contents. On croyait qu'on était très fort, parce qu'on en mettait beaucoup moins avant.
Oui.
Mais voilà, plus ça va, plus on nous dit qu'il faut en rajouter. Bon.
Oui, mais est-ce que les 20 ou 24 cm sont pas suffisants en évitant justement les ponts thermiques quand on en fait.
Voilà, alors enfin, en réalité, c'est vrai qu'il y a après un jeu entre l'investissement et puis le long terme. Des fois, on voit que ce qu'on aura investi dans 30 cm, on aura dépensé toute sa vie, enfin. Disons qu'on aura eu le temps de vivre toute une vie jusqu'à sa retraite, on n'aura toujours pas remboursé l'investissement. Alors, et puis, surtout ce qu'on aura payé en chauffage, ça n'aura pas été onéreux finalement. Enfin, je m'explique très mal. Voilà, comparativement. Donc, du coup, il y a un juste milieu à trouver des fois. Et tant pis si on n'a pas le label.
Enfin, voilà. Et esthétiquement, est-ce que vous avez vu et d'ailleurs, j'ai deux questions en fait. Est-ce qu'il y a des fournisseurs en Limousin de panneaux comme ceci?
Ah oui, bien sûr. Vous en avez de plus en plus. Donc justement, on va en voir un aujourd'hui que je ne connaissais pas. Moi, oui, donc comme quoi, tous les jours, ils s'en créent un négoce. Mais les premiers qui se sont installés, il y en avait un à Limoges. Mais malheureusement, alors je ne sais plus comment il s'appelait, mais... Monsieur Gija,
Jäger.
D'ailleurs, Denise Baccara vit dans sa maison maintenant. Son ancienne maison, pardon. Et bien, il avait du mérite parce qu'il était à une époque où on n'entendait pas du tout parler de bâti écologique. Il était à Limoges, même à La Chauvèche, encore pire, vers Saint-Denis-des-Murs. Mais bon, il a pas fait fortune parce que justement, c'était pas connu du tout. Depuis, alors après il y a eu un grand trou pendant plusieurs années, on était obligé d'aller chercher nos matériaux en Dordogne, dans le Puy-de-Dôme, bon. Et ensuite, heureusement, il y a Ecobio-Matériaux qui s'est installé à Uzerche, et c'était pas mal parce que ça avait beau être en Corrèze, c'était pas loin de Limoges en même temps, enfin bon voilà. Et il a tellement bien marché parce qu'en plus il a bien négocié avec les artisans, il leur a bien appris comment faire, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un isolant performant, il faut que la mise en œuvre soit parfaite, oui. C'est surtout ce qui pêche. Et alors là, on est très déçus, on se dit, mais mince, j'ai mis un super isolant, mais pourtant, j'ai plein de fuites d'air, etc. Enfin, bon. Donc la mise en œuvre est allée à presque à 80% plus, des fois plus important. Bon, allez, on va dire 50-50. Il faut savoir s'entourer d'artisans performants, vraiment. Et pour qu'ils soient performants, c'est une synergie entre le fournisseur de matériaux, le prescripteur, le maître d'ouvrage, sinon, conscient, et des fois c'est le maître d'ouvrage qui apprend à l'artisan comment faire. Bon, des fois il le prend très mal. Il faut qu'il soit bien formé. Et là, on a eu Monsieur Boubila de Ecobio Matériaux qui a su former les artisans sérieusement pour notamment insuffler la ouette de cellulose, qui est une chose qu'on n'improvise pas. Moi, j'ai vu des désastres d'artisans qui croyaient tout connaître parce qu'ils avaient eu une journée théorique de formation. Et ça a été, et encore c'était pas trop. Donc les ouvriers, ils n'avaient jamais fait. Et ça a été une catastrophe. Enfin, voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis depuis, Ecobio Matériaux a tellement grandi que finalement il a ouvert une grande structure à Fétia. Et puis une autre pour la Corrèze à Saint-Pantaleon-Large, voilà. Et puis maintenant, vous avez aussi à Ussel, ensuite, en Haute-Corrèze, Pavillon Bleu, qui a aussi créé son magasin de matériaux, qui travaille un peu moins avec les artisans, ce qui est dommage, parce que du coup, c'est justement avec... Je ne voudrais pas dire, mais c'est avec ce fournisseur-là que j'ai eu des problèmes. L'artisan n'a pas été formé, enfin, c'était l'horreur. Donc, Du coup, d'où l'importance du fournisseur. Je ne sais pas si le fournisseur est dans la salle.
Il n'a pas pu être là, il est venu livrer hier. Tu n'as peut-être pas eu le temps de le voir. Il y a tout un échantillonnage dehors. Tu as vu
d'accord.
Tu n'as pas vu, Isabelle?
Non, je
il y a tout un échantillonnage de matériaux dehors. Donc, c'est éco-bio, ça. C'est celui qui est de Fétia.
Oui,
et
voilà.
Puis, il y en a un autre dans, dans le
secteur. Mais celui qu'on va voir cet,
va voir cet après-midi, qui est Avenir Matériaux. Il viendra peut-être déjeuner. Mais on aura du loisir de le voir tout à l'heure.
On va pouvoir lui dire qu'il faut bien travailler avec les artisans. Il faut bien les former. Parce que tout est là, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas autre chose, en fait. Voilà. Donc...